السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Traduction du verset que je viens de réciter est: Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'existant de lui-même, et de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement ni le sommeil ne s'emparent de lui. À lui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est qu'avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ils ne saisissent de ses sciences que ce qu'il lui plaît. Son trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et leur maintien ne lui cause aucune peine. Et c'est lui le Très-Haut, le Grand. Ce verset est connu sous le titre d'Ayatul Kursi. Et selon un hadith du saint prophète Mohammed peace soit lui, rapporté par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que pour chaque chose il y a un sommet, et le sommet du Saint-Coran est la sourate Al-Baqarah, Et dans cette sourate se trouve un verset qui est le chef de tous les versets du Saint-Coran. Et ce verset, c'est l'Ayatul Kursi. Et dans un autre hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que la personne qui récite 10 versets de la sourate Al-Baqarah avant de s'endormir, eh bien Satan n'entrera pas dans sa maison jusqu'au lever du jour. Et parmi ces versets se trouve le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire l'Ayatul Kursi. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas dit qu'il suffisait de réciter ces versets. Cela signifie en fait que, avant de se coucher, l'on doit méditer sur ces versets. L'on doit réciter ces versets avec attention. L'on doit réfléchir sur les sens de ces versets et l'on doit faire son analyse. Et l'on doit examiner à quel point l'on est en train de mettre l'essence de ces versets en pratique, à quel point on est en train de se réformer. Et l'on doit aussi faire ce serment qu'à l'avenir on va se réformer. Voilà les choses qui vont nous éloigner de Satan. Le saint prophète, paix soit sur lui, a évoqué 10 versets de la sourate Al-Baqarah, et parmi ces 10 versets, il y a les 4 premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Dans ces 4 premiers versets, Allah décrit la vie pure d'un croyant. Et parmi les autres versets, il y a l'Ayatul Kursi et les 2 versets qui le suivent. Et dans ces versets, on a décrit les attributs de Dieu. Ensuite, parmi ces versets, il y a les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Et dans mon précédent sermon, j'ai évoqué le dernier verset de la sourate Al-Baqarah et j'expliquais ce verset à la lumière des commentaires du Messie premier alayhi salam. Aujourd'hui, je vais parler de l'Ayatul Kursi. Mais avant cela, je vais citer les explications du Messie premier alayhi salam à propos des 4 premiers versets de la sourate Al-Baqarah, où il est dit Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Je vais donc citer un des écrits du Messie premier alayhi salam à ce propos, où il nous donne des explications qui vont nous guider à comprendre l'étendue des sens du Saint-Coran. Et en saisissant ces points, il nous sera facile de comprendre le Saint-Coran. Le Messie promis alayhi salam déclare « Tant que les 4 causes fondamentales d'un livre ne sont pas parfaites, ce livre ne pourra être qualifié de parfait. » Ici, il a évoqué 4 points fondamentaux qui doivent être parfaits. Lorsque ces 4 points fondamentaux seront parfaits, c'est là que ce livre sera parfait. Le Messie premier alayhi salam a déclaré, c'est pour cette raison que dans ces versets, Allah a évoqué les 4 causes fondamentales du Saint-Coran. Il y a la cause active, il y a la cause matérielle, il y a la cause externe et la cause finale. Ces 4 causes sont arrivées à leur perfection. Alif Lam Mim indique la perfection de la cause active. Et le sens de Alif Lam Mim est Anallahu A'lamu, c'est-à-dire je suis Allah celui qui connaît l'invisible. J'ai révélé ce livre. Donc, Puisque Dieu est la cause active de ce livre, c'est pour cette raison que le sujet de ce livre est parfait et il est au-dessus de toute autre personne. Dès le début, Dieu a lancé ce défi à ses détracteurs grâce à ces trois lettres. Les croyants ne doivent ressentir aucune crainte à ce propos et ne doivent point être victimes de complexes d'infériorité. Car ce sont là les paroles de Dieu, celui dont les tâches sont incompréhensibles par l'homme. Et c'est un défi ouvert aux détracteurs du Saint-Coran. Le Saint-Coran leur demande d'apporter une seule sourate en prenant le soutien de leurs aides. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais on doit comprendre que le Saint-Coran est un livre parfait, car celui qui l'a révélé est lui-même parfait. Il est le maître de toute puissance et il connaît aussi l'invisible et le visible. Ensuite, les paroles « Zalik al-Kitab » indiquent la cause matérielle. Il est dit « Voilà ce livre qui est arrivé en existence grâce à la connaissance de Dieu. » Et il n'y a pas de doute que la connaissance de Dieu est parfaite. Et Allah déclare que l'homme ne peut embrasser toute la connaissance de Dieu. Dieu lui-même a accordé une partie de cette connaissance parfaite par le biais du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en révélant le Saint-Coran. Le troisième point qui a été évoqué par le Messie premier l'Islam concerne la cause externe. La cause externe qui est évoquée par ces paroles, la raibafi, c'est-à-dire ce livre est exempt de toute lacune. Et il n'y a point de doute concernant ce livre. Ce livre vient de la part de Dieu et ce livre est exempt de doute et de soupçon. Ce livre est sans pareil et ce livre est parfait. Ensuite, la cause fondamentale de ce livre est indiquée par ces paroles où il est dit « Hudal al-Muttaqin ». C'est-à-dire, ce livre est un guide parfait pour les muttaqis et toute direction qui peut être accordée à l'homme a été accordée par ce livre. Et il y a plusieurs stades dans la direction et dans la connaissance de Dieu. En réfléchissant sur le Saint-Coran et en agissant sur les préceptes du Saint-Coran, on va ouvrir de nouvelles portes dans le domaine de la direction. Voilà donc quatre points que l'on doit comprendre en récitant le Saint-Coran. Et si l'on comprend ces points et si l'on a foi dans ces préceptes, l'on pourra comprendre le Saint-Coran et l'on pourra être guidé dans la bonne direction. Je vais maintenant expliquer davantage ce verset de la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire l'ayatul Kursi. Dans ce verset, on a évoqué les attributs divins. Ce verset débute avec le nom d'Allah. C'est-à-dire, qui est Allah? Le Messie premier, l'Islam, déclare qu'Allah est le nom personnel de Dieu. Et ce nom renferme en lui tous les attributs divins. C'est cela le plus grand des noms, et ce nom renferme de grandes bénédictions. Mais celui qui ne se souvient pas de Dieu, comment pourra-t-il en profiter? Quand une personne clame qu'elle est croyante, elle doit avoir la certitude que Dieu est la source de toute grâce et doit essayer de comprendre ses attributs dans la plus grande mesure de ses possibilités. Il doit avoir foi en ses attributs selon ses capacités et ses possibilités. Et ses attributs divins sont sans limite. Lorsqu'il va posséder cette foi, c'est là qu'à chaque occasion, il va se souvenir de Dieu. L'homme s'empêtre dans le mal, ou transgresse les lois de Dieu, ou il arrive à léser les droits de Dieu ou les droits des créatures de Dieu, tout simplement parce qu'il ne se souvient pas de Dieu. L'homme oublie que Dieu est en train de le regarder à chaque instant. Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde, qui sont sans faiblesse de cœur, ces personnes qui sont point hypocrites, et qui sont entièrement soumis à sa volonté dans leur foi, ces personnes seront ses élus, et leurs chemins seront ceux de la sincérité. » Voilà donc l'effort minimum que nous devons faire. Voilà la foi minimum que nous devons posséder et nous devons essayer de progresser davantage. Dans ce verset, au début, Allah a déclaré « Allahu la ilaha illahu », c'est-à-dire « Vous devez vous tourner uniquement vers Dieu, c'est lui votre Seigneur, vous n'avez pas d'autre Dieu à part lui ». C'est lui que vous devez adorer. Et c'est lui qui rassemble en lui tous les attributs. Il est le maître de toute force et de toute puissance. Et c'est pour cette raison qu'il mérite adoration. Et l'on doit se détourner de tout faux Dieu. Et l'on doit se prosterner devant ce Dieu unique. Il est dit que si vous vous prosternez devant Dieu l'unique, c'est là que vous allez profiter des faveurs de ce monde et des faveurs de l'au-delà. En ce bas monde, on peut avoir un remplacement pour chaque chose, mais il n'y a rien qui peut remplacer Dieu. Personne ne peut le remplacer et ce sera pure sottise que de l'abandonner pour partir dans d'autres directions ou ce sera pure sottise que de changer de priorité. Un athée peut dire que « Moi, je n'accepte pas l'existence de Dieu, c'est pour cette raison que je n'ai pas à me prosterner devant lui. » Mais si un croyant, un musulman, déclare « La ilaha illallah », c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, mais qu'il donne plus d'importance aux moyens matériels qu'à Dieu, alors certainement, il va agir contre ses propres avantages. En ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que Dieu est celui qui est sans partenaire. Il n'y a personne d'autre qui mérite adoration. S'il n'était pas sans partenaire, ses ennemis auraient pu le subjuguer. Dans ce cas, les pouvoirs de Dieu seront en danger. les pouvoirs de Dieu et sa puissance seraient en danger. Et il est dit que personne n'est digne d'adoration sauf lui. Cela veut dire que ce Dieu est parfait, ses qualités sont exaltées, et si l'on devait choisir une personne ou un Dieu qui possède ses qualités parfaites, ou si l'on devait concevoir un Dieu parfait et exalté, il sera le plus exalté d'entre tous. C'est ce Dieu que l'on va choisir, car il est supérieur d'entre tous. C'est lui qui mérite adoration, et lui associer le moindre partenaire sera un crime. Un croyant va générer en lui la crainte de Dieu lorsqu'il va comprendre ce point mentionné par le Messie premier salam, qui déclare que lui associer le moindre partenaire dans son adoration sera un crime. Nous faisons face à plusieurs situations quotidiennement, et dans de telles situations, des fois inconsciemment, nous associons de faux dieux à Allah, et ainsi l'on commet une injustice contre sa propre personne. On oublie que c'est Dieu qui est notre Rabb et que sa Rububiya couvre les cieux et la terre. Qu'Allah couvre nos faiblesses dans de telles situations et qu'il nous accorde son pardon et sa grâce. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas d'autre Dieu à part toi, certainement j'étais du nombre des injustes. Donc, afin d'être guidé dans la bonne direction, l'on doit se souvenir de cette prière importante du Saint-Coran où il est dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». C'est une prière que l'on doit réciter souvent. Ensuite, Allah déclare qu'il est votre Dieu et il est votre véritable Dieu. Al-Hayyul Qayyum, il est le vivant, l'existant de lui-même. Non seulement qu'il est en vie, mais il accorde la vie à tout le monde. Et il est Al-Qayyum. Il n'existe pas de lui-même, mais il est celui qui maintient toute la création en vie. Dans un endroit, le Messie premier des salams déclare que le sens de ce verset est qu'il est le Dieu vivant, l'existant de lui-même. S'il est le seul Dieu, cela veut dire que toute créature existe grâce à lui. Et tout ce qui existe sur terre et sur terre existe grâce à Dieu. Dieu a déclaré qu'il est vivant, qu'il est celui qui maintient en vie. Ainsi, Dieu est en train de consoler les croyants en leur disant que vous ne devez pas succomber aux pressions et aux convoitises de ce bas monde. Et vous devez avoir la certitude quant aux promesses que j'ai faites aux croyants. La vie et le salut de vos générations sont liés à moi, et la vie de votre jamaat est liée à moi. En raison de la situation, ne pensez pas à placer votre confiance en ces choses de ce bas monde. Au contraire, continuez à m'adorer, prosternez-vous devant moi. En cela réside votre salut, en cela réside votre vie. Dans un autre endroit, Allah déclare « Watawakkal alal hayy allazi la yamutu wa sabbih bihamdi » et place ta confiance en celui qui est vivant, celui qui maintient tout le monde en vie, celui qui ne meurt pas, et glorifie-le en chantant ses louanges. Le croyant ne doit point avoir de doute quant à la personne de Dieu ou quant aux attributs de Dieu. Au contraire, face à l'adversité, il doit se prosterner davantage devant Dieu qui est Al-Hayy Al-Qayyum, celui qui exauce les prières. Ensuite, Allah a déclaré « La ta'khudhu sinatun wa la nawm » et ainsi il fait comprendre qu'aucun croyant ne doit penser que Dieu peut négliger les croyants en raison de son sommeil. Sachez que Dieu n'est point affecté par le sommeil ou par l'assoupissement, et ses attributs sont sans limite, et aucune faiblesse ne peut le détourner de ses attributs. Dieu n'a point besoin de repos, et ses capacités ne sont pas à l'instar des capacités de l'homme, l'homme qui a besoin de repos et du sommeil. Dieu est le maître de toute puissance. C'est pour cette raison qu'il n'a point besoin de sommeil. Il ne s'assoupit point en raison de la fatigue. C'est pour cette raison qu'il ne va point négliger les besoins de ses serviteurs. Certes, en raison des lois de la nature et en raison de ses autres attributs, il éprouve dans certains cas ses serviteurs. Mais il annonce aussi que la vie éternelle, la vie véritable, appartient à ses serviteurs et ceux qui meurent pour sa cause vivent pour toujours. Il a annoncé que c'est la Jamaat de son prophète qui aura la victoire. C'est la Jamaat de son prophète qui est vivante. Et il a montré la justesse de ses paroles. Il a montré que c'est sa Jamaat qui aura cette suprématie. Et ensuite, il a déclaré « Lahu ma fi samawati wa ma fil ard ». À lui appartient tout ce qui existe sur terre. Et personne ne doit avoir de doute à ce propos. Allah a déclaré qu'il aura la suprématie, lui et son prophète. L'on ne doit point avoir de doute à ce propos. Certes, si l'on regarde du point de vue matériel, l'on peut constater que cette victoire peut être impossible ou que cette victoire peut être loin, mais Dieu a déclaré Kataballahu la arlebanna ana wa rasuli, c'est-à-dire en dépit de ces situations difficiles, c'est son prophète qui aura la suprématie, et il en fut ainsi. Et Dieu a promis la même chose au Messie premier alayhi salam. Et maintenant, de nouveau, il pourra prouver que ses paroles vont s'accomplir et ses paroles sont en train de s'accomplir. L'on peut se demander comment et quand, dans de telles situations et avec de tels moyens limités, on pourra avoir la suprématie. Et que si victoire y aura, cette victoire sera très éloignée et que le succès final est très loin de nous. Mais Allah déclare que tout ce qui existe sur terre et dans les cieux sont sous le contrôle de Dieu. Cette terre et ces cieux ne sont pas sans maître. Toute la création se trouve dans le contrôle de Dieu et il est le maître de grande puissance. Et le monde est sous sa surveillance constante. La vie, la mort, le salut, tout est entre ses mains. Les trésors cachés et les trésors ouverts de ce bas monde sont entre ses mains. Cette force a décidé que c'est la Jamaat de son prophète qui aura la suprématie et aucune force au monde ne pourra arrêter ce décret. Aucune force, que ce soit une superpuissance ou que ce soit un État ou que ce soit les soi-disant érudits de la religion. Qu'ils sachent tous que c'est le décret de Dieu qui entrera certainement en action. Mais au tout début, Dieu a déclaré aux croyants que cette victoire, cette vie éternelle, tout cela a été promis à ceux qui ont la certitude quant aux attributs de Dieu et quant à ceux qui vont soutenir sa Jamaat. Donc, cette responsabilité incombe à tout Ahmadi. Tout Ahmadi doit comprendre cela. Ensuite, il est dit, « Manzalladhi yashfa' indahu illa bi'izni » Qui pourra intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne ne peut intercéder auprès de Dieu sans jouir de sa permission. Et selon les hadiths, il est dit que c'est le saint prophète Mohammed B. celui qui aura cette permission et il va intercéder. Que signifie le fait que le saint prophète Mohammed B. celui est un intercesseur? Le Messie premier l'Islam a expliqué cela. Il déclare que l'intercesseur parfait est le saint prophète Mohammed B. celui, celui qui a purifié le peuple de toute forme de turpitude et de toute forme de polythéisme et qui a transformé ce peuple en un peuple exalté. C'est par la permission de Dieu que le saint prophète Mohammed B. celui va intercéder et il va intercéder en faveur de ceux qui seront exempts de shirk, de ceux qui vont adorer un seul Dieu, de ceux qui vont éviter toute forme de péché et de transgression. Et si ces personnes sont coupables de fautes mineures, Allah leur accordera son pardon grâce à l'intercession du saint prophète Mohammed paix sur lui. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela davantage. Il dit, ne croyez pas que l'intercession n'existe pas. Nous avons cette foi que l'intercession est une vérité. Et il est dit dans un verset, wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Ce verset exprime la philosophie de l'intercession. C'est-à-dire, l'on doit refroidir ses penchants libertins et ses passions charnelles. Et suite à l'intercession, on augure la mort pour une vie pécheresse et l'on refroidit les passions charnelles. Et ainsi, on ferme le compte des péchés et on ouvre le compte des actes méritoires. C'est-à-dire, grâce à cette intercession, on refroidit ses passions charnelles. Et ainsi, on ne commet plus de péchés et l'on arrive à accomplir des actes méritoires. L'intercession n'a pas rendu vaines les bonnes œuvres. Au contraire, cette intercession pousse à accomplir de bonnes œuvres. L'intercession du saint prophète Mohammed B. celui a débuté sur cette terre. Et cette intercession est liée avec de bonnes œuvres. Et l'intercession n'est point similaire à la rédemption. La rédemption pousse à commettre plus de péchés. Et la philosophie de l'intercession pousse à accomplir de bonnes œuvres et à se tourner davantage vers Dieu. Et grâce à cette prière, ce pouvoir d'intercession a été accordé à notre époque à cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare que dans certaines situations, certains ont profité de mon intercession pour se libérer de leurs souffrances et de leurs maladies. Allah a déclaré qu'il sait aussi la vérité derrière chaque chose. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Notre Dieu est Alimul Ghaib. C'est pour cette raison que, quant à ceux qui commettent des péchés ouvertement, ces personnes ne pourront pas jouir de cette intercession. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. Ensuite, Allah déclare à propos de sa connaissance « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » C'est-à-dire, personne ne peut embrasser l'étendue de sa connaissance. Même le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui était le bien-aimé de Dieu, et à propos de qui il est dit que si vous voulez jouir de l'amour de Dieu, alors vous devez suivre ce bien-aimé, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était celui qui a reçu toutes ses connaissances de la part de Dieu. Dieu lui a informé des choses passées, des choses qui ont été évoquées dans le Saint-Coran. Et seul le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, comprenait cela. Il y avait certains points que seul lui comprenait, que ses compagnons ne comprenaient pas. Mais même dans ce cas, Allah a déclaré que cette connaissance n'est pas parfaite. Personne ne peut embrasser ma connaissance. Personne ne peut comprendre l'étendue de ma connaissance. Et c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que ceux qui cherchent la connaissance, que ce soit la connaissance matérielle ou une connaissance spirituelle, Allah leur ouvre les voies et Allah les guide dans la bonne direction. Et lorsqu'on arrive à un point, il ouvre d'autres voies. Voilà ce que prouve la science aussi. Allah montre de nouvelles voies à ceux qui font des recherches. Et on ne peut comprendre l'étendue de l'univers, et il en est de même dans l'univers spirituel. Cette connaissance de Dieu est illimitée. Non seulement que la personne de Dieu dépasse notre entendement, mais l'on ne peut même pas saisir la naissance ou le début même de cet univers. C'est Allah qui accorde ses connaissances s'il le veut. Et cela doit pousser l'homme à se tourner de nouveau vers Dieu. Dieu, qui est celui qui possède tous ses attributs parfaits. Et ensuite il dit sa souveraineté recouvre la terre et les cieux. C'est lui qui a accordé la vie à toute chose qui existe. Votre connaissance à vous est limitée. C'est lui qui vous accorde cette connaissance. Et vous pouvez progresser grâce à cette connaissance qui vous est accordée. Mais sachez que c'est lui qui accorde cette connaissance dans une certaine mesure. C'est pour cette raison que c'est lui qui mérite adoration et vous devez aussi abandonner tout faux Dieu. Sa souveraineté recouvre les cieux et la terre.
Non seulement
Et il s'est pris la responsabilité de protéger cette création et il surveille tout. Et ce système est vaste, c'est un système que l'homme ne peut comprendre. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que examinez le monde, cherchez et essayez de voir s'il y a des lacunes dans cette création. Vous allez constater qu'il n'y a point de lacune dans ma création. Et votre vision sera fatiguée et ne trouvera point de lacune dans ma création. Et c'est Dieu qui est en train de faire tourner tout ce système et il n'est point fatigué et il n'a point besoin de sommeil. Est-ce que cela ne suffit pas pour vous faire comprendre que vous devez vous prosterner devant Dieu qui est tout-puissant et que vous ne devez pas vous rebeller? Et en fin de compte, il a déclaré « Wahwal Aliyul Azim ». C'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne pour faire tourner tout ce système. Voilà donc le Dieu de l'islam. Voilà le maître de tous ses attributs. Et c'est lui que l'on doit adorer. Qu'Allah nous accorde cette compréhension afin que nous puissions reconnaître Dieu et afin que nous puissions tout le temps nous prosterner devant lui et afin que nous puissions tout le temps l'adorer. Et que nous le considérions comme le maître de tout attribut afin que nous puissions profiter de ses attributs. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Il y a quelques nouvelles que je dois annoncer. La première prière funéraire concerne Mia Lake Ahmed Tariq Saheb de Faisalabad, qui a été assassiné le 28 mai par des malfaiteurs. Il retournait de son magasin. Et il a été assassiné. Il a reçu des balles au front et à l'estomac. Et il est décédé à l'hôpital. Il est tombé donc en martyr. Il avait 54 ans. Il a été assassiné devant sa maison. Son fils est venu à moto en premier. Et lui, il suivait en voiture et son fils a vu deux ou trois personnes qui attendaient dans une voiture devant la maison. Le fils a essayé de téléphoner à son père, mais il venait derrière. Et lorsqu'il a ralenti à cause d'un dodan, c'est là que les criminels lui ont tiré dessus. Il a reçu une balle au front et ensuite ils se sont rapprochés de lui et lui ont tiré à bout portant. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde la patience à la famille endeuillée. Il était un moussi et l'arrière-grand-père de son père était un compagnon du Messie premier al-Salam. Il a servi la Jamaat. C'était une personne qui avait un grand amour pour les autres. Dans la famille endeuillée, il y a sa mère qui a environ 72 ans. Il a laissé son épouse, trois filles et deux fils. Son frère habite ici et il m'a dit que, en entendant cette nouvelle triste, il a téléphoné à sa mère. Et le frère ne pouvait contrôler ses émotions. C'est sa mère qui lui a consolé en disant que ce n'est pas la peine d'être ému. Moi, je suis fier d'être la mère d'un mentir. Voilà donc ces mères qui ont prêté allégeance au Messie premier al-Salam. Voilà les exemples que l'on voit parmi les premiers musulmans. La deuxième prière funéraire concerne Ghulam Mustafa Saheb, qui est un inspecteur de police, qui est décédé à l'âge de 49 ans dans cet attentat à la bombe à Lahore. Il est donc décédé dans cet attentat. Il y a aussi Madame Mumtaz Begum Saheba, épouse de Nisar Saheb de Chennai. Elle est décédée le 30 mai en raison d'une maladie. Elle a laissé une fille de 8 ans. À Chennai aussi, en Inde, on est en train de s'opposer à la Jamaat. Sur le mont Saint-Thomas, il y a un cimetière pour les musulmans. Et depuis les 30 dernières années, les Ahmadis sont enterrés dans ce cimetière. Lorsqu'on allait enterrer cette dame, les musulmans et les mollahs ont entouré cette procession et ont déclaré que c'est un cimetière de musulmans, on ne va pas vous laisser enterrer cette dame ici. Il y a eu l'enterrement, les Ahmadis sont retournés, mais après quelque temps, il y a eu plus de personnes et ces personnes ont déterré la dépouille de cette dame. La police était là-bas et n'a rien fait, en disant que nous ne pouvons rien faire face à ces mollahs. Partout, ce sont ces mollahs qui sont en première ligne pour traîner le nom de l'islam dans la boue. Et c'est pour cette raison qu'on les qualifie de ulama et sourds. En tout cas, la police a fait enterrer cette dépouille dans un autre cimetière, donc je vais diriger la prière funéraire de cette dame. Ensuite, il y a la prière funéraire de Mubaraka Begum Sahiba, épouse de Mukarram Chaudhry Saheb Marhoum. Elle est la mère de Chaudhry Munir Saheb, qui est responsable de la transmission de la MTA aux USA. Son mari était dans la marine marchande et il prêchait l'Ahmadiyya là où il partait. Et il avait aussi les littératures de la Jamaat avec lui. Et ainsi, il a pu établir la Jamaat dans plusieurs endroits. La quatrième personne dont je vais diriger la prière funéraire est Jafar Ahmad Khan, qui était le fils de Nawab Abbas Khan. Il était un handicapé moteur, mais il était très actif mentalement. C'était un moussi et c'est un de mes cousins. Qu'Allah lui accorde son pardon. Qu'Allah exalte le statut de toutes ces personnes décédées et qu'Allah accorde la patience aux familles endeuillées. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire.